cette émission, nous présentons nos excuses pour le retard considérable avec lequel nous venons de commencer cette émission. Et c'était lié, n'est-ce pas, aux perturbations sur la ligne téléphonique. Vous allez nous excuser. Et nous parlons ce soir de la situation sécuritaire et humanitaire au Nord Kivu. En effet, les FRDC, avec le soutien des casques bleus de la MONUSCO, ont repris les contrôles dimanche soir de quelques auteurs de Kanyabayonga. C'est après des violents combats qui opposent depuis une semaine l'armée et les rebelles du M23 autour du contrôle de cette commune rurale stratégique du territoire de Lubero. Conséquence de ces combats, des milliers de déplacés vivent un véritable calvaire à Kirumba, une commune rurale toujours dans le territoire de Lubero, ont alerté leurs représentants dimanche 2 juin. Ces déplacés, à majorité des femmes et enfants, ont fui il y a 4 jours l'avancée des rebelles du M23 vers la commune rurale voisine de Kanyabayonga et sur place, ils manquent de tout. Quel est le faire des combats entre les FRDC et les M23 pour le contrôle de la commune de Kanyabayonga? C'est l'objet du débat de ce soir et nous recevons dans cette émission, ici au studio, professeur Dadis Allé, il est docteur et spécialiste en développement pour les pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC d'Afrique. Bonsoir, professeur Dadis Allé.
Bonsoir et bonsoir à tous.
Lui devait aussi être avec nous, mais il n'est pas encore là, c'est Placide Nzilamba, il est membre de la société civile du Nord Kivu. Mais on a aussi en ligne Henri Pacifique Mayala, il est coordonnateur du baromètre sécuritaire du Kivu. Bonsoir Henri Pacifique Mayala.
Bonsoir cher Guy Maté, bonsoir à tous les auditeurs de la RDC aujourd'hui.
Bienvenue une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Nous l'avons dit, les FRDC, avec le soutien des casques bleus de la MONUSCO, ont repris les contrôles dimanche soir de quelques auteurs de Kanyabayonga. C'est après des violents combats qui opposent depuis une semaine l'armée et les rebelles du M23 autour du contrôle de cette commune rurale stratégique du territoire de Lubero. Quels sont les derniers développements sur le terrain des opérations? On le saura en écoutant cet échange entre Martial Papi Mukeba et Duna Madimba.
Martial Papi Mukeba, bonjour.
Bonsoir, Duna Madimba.
Quelle est la situation sur la ligne de front dans la province du Nord Kivu ce lundi et éventuellement en ce moment précis?
Jusqu'à 18h de ce lundi, la commune rurale de Kanyabayonga est toujours sous contrôle des FRDC soutenus par les casques bleus de la MONUSCO déployés dans la zone depuis 4 jours. Après les combats de ces 2 derniers jours et ceux de ce lundi, sur l'axe Rwindi, la position avancée du M23, qui se trouvait à 5 km de Kanyabayonga, se trouve maintenant à 10 km de cette commune rurale. Sur l'axe Lusora, la position avancée des rebelles, qui se trouvait samedi à 6 km de Kanyabayonga, a été repoussée par les FRDC jusqu'à une dizaine de kilomètres. Et donc, pour l'instant, les FRDC ont ouvert les cercles du périmètre de Kanyabayonga qui était depuis quelques jours sous pression de l'avancée du M23. Cependant, on rapporte que les combats continuent jusqu'à ce soir et les débelligérants continuent à se renforcer en hommes et matériel de guerre dans la zone.
Marcel Papi Mukeba, pouvez-vous nous dire ce que représente Kanyabayonga pour que son contrôle aujourd'hui fasse objet des affrontements aussi violents entre le FRDC et le M23?
Kanyabayonga est stratégique. Il est situé à la limite entre les Grands Nord, qui couvrent la région de Beni, Butembo et Lubero, et les territoires de Rutshuru sous occupation des rebelles du M23. Dans sa partie sud, Kanyabayonga, qui est sur une colline, donne une vue panoramique sur les parcs nationaux de Virunga et ouvre la voie à une dizaine de kilomètres de Rwindi. Cette station de l'ISSN, sous occupation rebelle depuis quelques mois, dispose d'un aérodrome et permet de contrôler 3 axes, Rwindi Mabenga, Kiwanja Mabenga Vichumbi et Rwindi Kibirizi. Du côté nord, à partir de Kanyabayonga, on a également une voie ouverte et par route vers les agglomérations de Kirumba et Kaina, ainsi que les grandes villes de Butembo et Beni. Le contrôle de Kanyabayonga permet donc d'avoir une facilité de bouger son dispositif militaire vers les Grands Nord et les Petits Nord, ainsi que protéger ses arrières. Au sein de l'armée, on présente Kanyabayonga comme zone de résistance.
Ces affrontements ont occasionné le déplacement des milliers de personnes. À ce stade, quelle est la situation de ces personnes, Martial Papi Moukeba?
La situation est catastrophique selon les témoins sur place. Plus de 80 000 habitants de Kanyabayonga, en plus de quelques 50 000 ménages de déplacés qui étaient hébergés sur place, ont fui vers Kirumba à 30 km de Kanyabayonga. Des femmes enceintes, des enfants et personnes de troisième âge sont sans abri, sans nourriture, sans eau potable et sans accès aux soins de santé primaires. Certains acteurs sociaux craignent une catastrophe humanitaire.
Martial Papi Moukeba, merci et bonne soirée sur vous.
Merci Dona.
Merci à Martial Papi Moukeba et Dona Madimba. Professeur Dadi Salé, vous êtes docteur et spécialiste en développement pour les pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC et d'Afrique. Après avoir suivi cet entretien entre Martial Papi Moukeba et Dona Madimba, est-ce que vous avez d'autres éléments à ajouter?
Ben oui, les éléments ne manquent jamais, mais on félicite un peu cette précision, ce qui est tout à fait vrai, et qu'on devait bien signaler que ce n'est pas une situation vraiment nouvelle, ça va, parce que là, ce qui est un peu nouveau, c'est plutôt la façon dont les combats se font pour l'instant. Mais cette zone a toujours été instable, parce que le parc a toujours été, jusqu'à preuve du contraire, instable, quels que soient les contrôles de l'armée. Là, c'est tout simplement que c'est plutôt le RDF, le Rwanda, qui contrôle un peu totalement et qui se rapproche, comme ça a été dit, Kanyabayonga, on descend directement vers Kirumba, Kaine, on est totalement dans les Lubero. Et les Lubero, on descend directement vers Butembo, qui est une ville très stratégique, surtout pour le Grand Nord, et ça serait une catastrophe.
Et donc, on étend son influence dans le Grand Nord.
Tout à fait. Donc, traverser Kanyabayonga, ça serait une catastrophe. Ça serait une perte énorme pour la République démocratique du Congo sur le plan stratégique. Parce que la ville de Butembo, qui est majoritairement habitée par les Nandés, je vous assure, ça serait une autre guerre, dans une guerre. Ça, je peux le dire ouvertement.
Kanyabayonga, Martial Papi Moukeba a parlé d'une ville ou d'une zone stratégique.
Tout à fait.
Est-ce que il serait plus stratégique que la localité de la partie sud du Nord Kivu, telle que Sake, par exemple?
Tout à fait, malheureusement. Je pense que Sake représente une sorte de bouclier par rapport à Goma, tout simplement. C'est ça l'intérêt stratégique dans ce cadre-là. Mais Kanyabayonga, c'est plutôt une ouverture un peu directe vers le Grand Nord, parce que là, d'une façon stratégique, on va comprendre qu'on a des extrêmes. Ça va? Là, il y a des extrémistes dans l'autre côté, ça va? Et qui n'acceptent pas la présence de Rwandais aussi facilement que ça.
Donc, vous parlez de qui? Vous avez besoin de qui?
Tout c'est quand vous dites seulement Rwanda, n'est-ce pas? Et que je ne veux pas parler des aspects tribalo-ethniques, mais dès que vous parlez Rwanda, la sensibilité va crescendo plus vous vous rapprochez vers le Grand Nord. Donc la sensibilité qui est à Goma n'est pas la même sa sensibilité contre le Rwanda qui est à Butembo, Beni et Kaina, etc.
Est-ce que ce n'est pas aussi une stratégie mise en place par l'ennemi? Ne peut-on pas parler d'une certaine diversion utilisée par la rébellion du M23 pour détourner, n'est-ce pas, l'attention sur ce qui se passe actuellement dans la partie sud du Nord Kivu?
Je ne pense pas personnellement. Pourquoi? Parce que il faut bien comprendre que la mauvaise compréhension de la situation sécuritaire aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à trouver de solution. Non, il s'agit d'une guerre économique. On a parlé du génocide depuis très longtemps. Il s'agit d'une guerre d'occupation, une guerre de balkanisation directe ou bien indirecte. La RDC a eu une partie balkanisée d'une façon indirecte. J'ai donné ces notions depuis très longtemps, mais malheureusement, les gens n'étaient pas attention. La RDC Goma a été balkanisée indirectement depuis plus de 20 ans. Goma a été contrôlé, Goma, Rutshuru, etc. Ça a été contrôlé plus par les Rwandais que par Kinshasa. Depuis plus de 20 ans, c'est ça une balkanisation indirecte. Le minerai exactement du Rubaya, le minerai, ont toujours été contrôlés depuis plus de 20 ans par les Rwandais. C'est pas par la République démocratique du Congo. Donc, cette notion de balkanisation indirecte nous renvoie à comprendre que, bon, on devait quand même féliciter les gouvernements, n'est-ce pas? Parce que pour la MONUSCO, Je vous assure que il y a eu une formation des Ouazalendo, ça va, par la MONUSCO. Nous sommes très contents et fiers, parce qu'au moins c'est une bonne façon de représenter la MONUSCO pour l'instant. Parce que dès que la MONUSCO commence à soutenir d'une façon directe ou bien indirecte les Ouazalendo, qui est une force terrible, extraordinaire, qui fait en sorte que les Congos continuent de résister, là on s'est dit, apparemment, nous sommes vers les Nations Unies qui commencent à comprendre un peu la situation. Donc, nous pensons exactement qu'il ne s'agit pas d'une petite question. Le RDF, l'Ouganda, les néocolonialistes ne vont pas finir la guerre tant qu'ils n'arrivent pas à leur résultat. Et que c'est-à-dire que la République démocratique du Congo doit mettre tout le moyen. Il s'agit plus d'une... c'est pas une blague. Il faudra qu'on comprenne effectivement qu'ils veulent diviser la République démocratique du Congo, piller au maximum possible, et que le langage des Congolais doit renvoyer vers une guerre pas tribalo-ethnique. Parce qu'il y a des gens qui veulent tribaliser effectivement cette guerre-là, qui n'est absolument pas une guerre tribalo-ethnique. Mais la République démocratique du Congo porte encore des gants, là où les autres ne portent pas des gants. C'est la raison pour laquelle l'article 63 de la Constitution et l'article 86 n'ont jamais été mis en application. Je rappelle effectivement que le Nord Kivu est sous état de siège, c'est-à-dire l'application de l'article 85 de la Constitution. Or, cet article prévoit, ça va dans le sens normal, 30 jours. Là, on est à plus de 2 ans. C'est-à-dire, effectivement, que la République démocratique du Congo ne veut pas appliquer l'article 86, c'est-à-dire déclarer la guerre, et pourtant nous sommes en guerre. C'est une contradiction de la République démocratique du Congo. On comprend que le chef de l'État fait le maximum, on est vraiment d'accord avec ça, mais déjà sur le plan psychologique, nous n'éteignons pas la guerre. Ici à Kinshasa, à Lubumbashi, ben c'est un peu comme si les gens, comme certaines personnes l'ont dit, vivent à 2 kilomètres et ça ne les regarde pas. Il n'y a pas cette mobilisation générale. Il faut d'abord une conscience collective congolaise pour combattre cette guerre qui est déjà claire. Il ne s'agit pas d'une guerre pour prendre Goma, il ne s'agit pas d'une guerre pour prendre Lubero, non, c'est une guerre totale de minéraux et géostratégiques. Sarkozy l'a dit, tout, au fond, ce sont les éléments les plus simples possibles. Sarkozy a montré les choses aussi clairement que bonjour, suivi par effectivement Macron et par toute la communauté européenne et les Américains et tout le reste. Donc, la République démocratique du Congo reste l'enfant, ça va, isolé, mais l'enfant qui ne veut pas se dégager d'une situation très compliquée et complexe.
Merci Henri Pacifique Mayala. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du baromètre sécuritaire du Kivu. Quelle lecture vous faites de la situation qui prévaut autour de la commune rurale de Kanyabayonga aujourd'hui?
Oui, Guy Maté, merci déjà pour cette opportunité. Comme le disait déjà le prof Salé, que je salue en passant, Kanyabayonga représente cette charnière qui ouvrirait effectivement sur le Grand Nord et qui rendrait encore beaucoup plus complexe la situation. Il y a aussi un élément peut-être que je voudrais soulever, c'est ce que nous craignons qui est une sorte de d'alliance de circonstances entre des rébellions comme le M23 et les criminalités des mouvements et rébellions étrangers comme les EDF. Mais pour revenir sur certains éléments qu'a déjà soulevé le prof Tadi, je soutiens aussi, je n'irai pas jusqu'à parler de je parlerai beaucoup plus d'une guerre de contrôle, hein, des zones d'influence économique, que de divisions ou le mot qui m'échappe en fait. Mais si on rentre un peu sur les aspects des contextes historiques qui nous amènent à cette situation, je crois que le président Félix n'aurait pas autorisé les Ougandais à intégrer la partie congolaise et à extendre leur zone d'influence économique, parce que s'il faut revenir sur la compréhension même de cette expansion d'influence économique, l'Ouganda considère toujours que le nord-est du Congo représentait sa zone d'influence économique, autant pour le Rwanda avec...
Là, vous faites allusion aux opérations conjointes FRDC-UPDF dans le Grand Nord?
On va, On va en arriver là, oui, tout à fait, parce que ça se mélange. Quand on parle d'intérêt d'État, nous voyons directement les intérêts économiques ainsi que les aspects sécuritaires des pays. D'emblée, ça c'est une époque où le Rwanda et l'Ouganda, il n'y a rien qui marche, les relations diplomatiques sont rompues et le président Félix, d'une part, autorise non seulement les opérations conjointes et Shujaa auxquelles vous faites allusion, mais il y a aussi et surtout ces opérations de la construction de cette route de Bounagana qui, si une fois, aurait été parachevée, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui transiterait par le Rwanda et donc d'une certaine façon serait une asphyxie économique pour le Rwanda qui déjà ne produit pas grand-chose. Même dans la configuration du marché commun est-africain, vous allez remarquer avec moi que d'une part la Tanzanie produit, il n'y a pas de problème de ce côté-là parce que le Congo représente le marché à 90 millions de consommateurs et la Tanzanie peut directement déverser par Kalemi ses productions sur le Congo. D'autre part, le Kenya produit et l'Ouganda et le Rwanda bénéficie des frais de transit qui ne devraient plus exister si on devrait consommer les produits de Kampala, de Nairobi à Kisangani, à Kinshasa, sans pour autant que ça soit passé par le Rwanda à travers Goma. C'est tout ça, les opérations conjointes Shujaa viennent comme la goutte du trop-plein. Kagame, ce qu'il a fait, certes, c'est condamnable, mais après, c'est ce que devrait faire tout président pour son pays. Et que d'autre part, chez le Burundi aussi, tacitement, ils ont la permission de rentrer sur le territoire congolais dans le Fizi pour traquer les raids de Savara. Donc c'est tout ça, en fait, cette confluence qui nous amène dans cette situation. Et si jamais Kanyabayonga venait à tomber, ça serait très grave parce que aussi nous ne savons pas avoir une lecture assez limpide sur le rôle de l'Ouganda dans toute cette cacophonie. Nous avons une part des Ougandais qui sont dans le cadre de la coopération avec le Congo et nous n'avons pas toujours une lecture claire sur les troupes ougandaises qui sont venues dans le cadre des opérations de forces de l'Est africain. Ils sont toujours à Bounagana. Et nous ne devons pas perdre de vue que depuis novembre.
Ils sont, les troupes ougandaises à Bounagana cohabitent avec les troupes du M23?
Tout à fait, parce que la frontière n'a jamais au moins été fermée. Donc, la collaboration entre l'Ouganda et le M23, d'une certaine façon, tacitement ou pas, elle est établie. Et donc, pour nous, à perdre ce couloir parce que Kanyabayonga a tombé, ils ont déjà une certaine accès sur le lac et c'est là peut-être aussi la question sur laquelle il faudrait réfléchir. Est-ce qu'ils ne vont pas retourner ou contourner pour couper et prendre en étau nos forces entre les hauteurs de Miriki et Kirumba? Mais bon, ça, on va laisser aux stratèges et experts militaires d'en décider. Mais il y a aussi cet antagonisme ethnique qu'il faudrait peut-être aussi soulever, qui peut servir tout comme il peut aussi desservir. Parce que l'un des aspects aujourd'hui qui de plus en plus est en train de ressortir, c'est que au sein de nos troupes régulières, il y a de ces éléments, il y a de ces officiers tutsi congolais qui sont restés du bon côté de l'histoire, si je peux le dire comme ça, et qui de plus en plus sont en train de prouver leur nécessité. Il y a cette question où la guerre du M23 a été aussi politisée, où le discours de la haine, dans le cas où les populations tutsi congolaises sont senties ciblées injustement la plupart des fois, autant les officiers dans les forces, mais je crois que nos forces devraient prendre en considération de plus en plus les officiers tutsi congolais qui maîtrisent aussi d'une certaine façon le M23, ça pourrait être tactiquement ou même dans la pensée en soi. Et ce qui rendrait encore de plus en plus obsolète cette réclamation de défense des minorités tutsi qui, pour moi, la plupart des fois, à tout moment qu'il y a ces soulèvements, ces rébellions qui se prétendent ou qui se réclament la protection des minorités,
Paradoxalement, ce sont les moments où nous avons de plus en plus de discours de haine, de plus en plus les mêmes populations minoritaires supposées être sécurisées par ces rébellions, qui se retrouvent être dans des situations pas assez souhaitables. Donc, pour moi, je pense que ces éléments-là, ça se rencontre. Aujourd'hui, quand vous regardez la composition du commandement à sur le front de Kanyabayonga, l'adjoint au général Chico, qui est un ancien CNDP, un Tutsi, qui n'a pas intégré les forces, la rébellion du M23, et qui maîtrise, parce qu'il a travaillé jusqu'à un certain niveau avec les Makenga, il maîtrise d'une certaine façon comment est-ce que ces gens-là réfléchissent. Et pour moi, si vous pouvez capitaliser sur toutes ces forces-là, qu'on essaie de ne pas laisser les communautés décider de leur devenir, mais que vraiment le gouvernement prenne les dessus, nous mette les forces ensemble pour faire face à cette rébellion en utilisant toutes les ressources en place, cela devrait continuer à donner les résultats.
Henri Patrick,
là aussi, ça joue sur le moral des troupes et ça donne les résultats, en tout cas pour ce qu'on est en train d'observer pour le moment.
Henri Patrick Mayala, au vu des combats acharnés qui se déroulent, n'est-ce pas, pour le contrôle des Kanyabayonga, est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui d'affirmer qu'autant il est inadmissible que Goma tombe, autant il est inadmissible que Kanyabayonga puisse tomber?
Ah, tout à fait, hein, tout à fait. Et d'une part, c'est serait au-delà du symbolique, parce que aussi j'ai toujours soutenu que le M23, jusque-là, ils n'ont pas vraiment démontré des ambitions à pouvoir s'accaparer des si grandes agglomérations comme Goma. Je trouve que ça serait peut-être compliqué pour eux, mais faire du mal à Goma à distance en asphyxiant la ville, un peu comme c'est le cas aujourd'hui, en tout cas, je ne vois pas le besoin pour eux de prendre Goma au-delà de la symbolique, parce qu'ils nous font déjà très mal en fermant les principaux axes qui alimentent la ville. Pour Kanyabayonga, là, il y a beaucoup plus des enjeux qui vont au-delà du symbolique. Et là, ça sera autant de l'expansion territoriale que stratégiquement ou sécuritairement plus toxique au Congo, dans le cas où la progression du M23, si elle va encore beaucoup plus au nord, c'est-à-dire que potentiellement, il y aurait un lien entre ou un contact entre les EDF, parce que personne, on n'en parle pas beaucoup pour le moment, mais les EDF restent, c'est la rébellion la plus atroce, en tout cas, ils restent les plus cruels avec la Codeco. Et tout cela, je pense que ça déstabiliserait encore davantage que, déjà.
Henri Pacifique Mayala, à un certain moment, on sentait les partenaires régionaux de la RDC et mettre l'accent, n'est-ce pas, sur les processus de Nairobi et de Luanda. Mais qu'est-ce qui explique depuis un certain moment les silences des partenaires régionaux de la RDC face au combat qui se déroule dans les Nord Kivu et face à cette catastrophe humanitaire? Ces silences-là, comment vous pouvez l'expliquer?
Alors, moi, je crois que oui, c'est bon de négocier, mais aller autour de la table de négociation, c'est toujours souhaitable d'y aller avec une bonne main, de bons leviers sous contrôle. Et autant que Kinshasa n'a jamais voulu de la négociation en position de faiblesse, c'est que l'on peut bien comprendre et ne pas lui reprocher. J'estime aussi que à un certain niveau, il y a eu, oui, cet engouement où il fallait donner de la chance au processus de Luanda autant qu'au processus de Nairobi. Mais après aussi, il faudrait questionner les intérêts de ses partenaires dans tous ces efforts qui ont été déployés. Et peut-être que ça n'a pas, en tout cas, j'en suis convaincu que ils n'ont pas stoppé de discuter. Au vu, par exemple, du communiqué des forces de la SAMIR-RDC le week-end passé où il y a eu enlèvement d'otages, ils n'ont pas ressorti cette dimension dans leur communiqué officiel, pas parce que c'est pas arrivé ou que ça ne valait pas la peine, mais sûrement qu'il y a des pourparlers à un certain niveau et qui seraient encouragés. Mais au niveau régional, je pense qu'il nous faudrait, en tout cas pour la partie congolaise, il faudrait partir autour de la table en ayant une certaine position, en étant dans une certaine position de force, un peu comme c'était le cas en 2012. On pourrait se dire qu'on est peut-être un peu loin, mais il y a quand même des signaux, un peu comme la résistance autour de Kanyabayonga, la résistance autour de Lumbishi sur l'axe Weremana-Minova. Il faut maintenant retravailler à l'interne sur la motivation des troupes pour voir comment on consolide ces moindres acquis et inverser la tendance. Après cela, on pourrait maintenant considérer repartir sur la table des négociations. Certes, la question autour de l'implication du M23, est-ce qu'elle va encore faire surface? Oui, mais après aussi, on ne peut pas en vouloir au Congo de ne pas vouloir discuter avec un acteur irrégulier. Si le Congo estime, comme beaucoup et comme ça a été prouvé à plusieurs échelons, que le Rwanda est derrière le M23 et que s'il faudra avoir un interlocuteur avec qui discuter, ça serait d'État à État et donc avec le Rwanda et pas avec le M23. Ça aussi, je trouve que ça reste légitime.
Merci. Professeur Gadi Salier, à cette allure, au vu de la situation qui prévaut sur le terrain, quels valent encore aujourd'hui les processus de Nairobi et de Luanda tels que conçus par leurs initiateurs?
Je ne m'irais pas faire un peu... l'intellectuel. Parce qu'on peut tourner autour du pot et essayer de trouver des points positifs, mais je pense que je devais dire que ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien, pourquoi? Parce que le départ était déjà biaisé. Biaisé parce que, effectivement, ce qui était sur table, c'est que le Congo devait négocier. Ce qui fait qu'avec l'Eastern African Community, on a vu la suite. Avec les déclarations des Ruto, n'est-ce pas? On a vu la suite, effectivement. Ruto est clair pour l'instant. Il dit le Rwanda n'est même pas impliqué. Le président kényan, il dit que le Rwanda n'est même pas impliqué. Donc, ils ont leur vue déjà. Alors, je voudrais vraiment dire quelque chose de simple cette fois-ci, parce qu'on en a un peu marre. On est énervé. Avec notre philosophie Kujitegemea, Tomilu Kelatuso Sangemo Situji Kebela, la grande responsabilité appartient aux Congolais. Un point est très. Il n'y a personne qui va se battre pour le Congolais. Il n'y a personne qui va avoir des stratégies pour libérer la République démocratique du Congo à part les Congolais. Parce que il est prouvé qu'il y a un complot au niveau international. Mais disons les choses au clair. On ne peut pas avoir un complot au niveau international si une partie ou bien des entreprises multinationales, n'est-ce pas, pour ne pas dire la CIA ou bien les Américains ne sont pas impliqués. La France, la Grande-Bretagne, des signatures pour soutenir le Rwanda. Ça, c'est le premier grand point. Le deuxième grand point, il y a une complicité au niveau régional. Comme vous l'avez dit, notre co-débatteur l'a dit, il n'y a aucun pays pratiquement qui a intérêt à ce que la République démocratique du Congo puisse recouvrer la paix. Ni les Kenyans. Quand je l'ai dit, les gens me disent, Dadi, pourquoi tu racontes, mon Dieu, mon roi? Il ne s'agit pas d'un jeu d'enfant, il s'agit d'un jeu d'intérêt, un point étré. Les Kenyans n'ont aucun intérêt pour que la République démocratique du Congo puisse avoir la paix. Ni les Burundi, ni l'Ouganda, ni la Tanzanie, etc. Ce qui fait effectivement que ça fait que le Congo reste isolé. Si nous ne prenons pas, le président de la République ne prend pas encore de plus grandes décisions, ça va, c'est que nous allons tourner en rond. Je les précise un peu pour proposer des choses très simples qu'on a toujours proposées. L'article 63 de la Constitution. Pourquoi est-ce que cet article n'est pas appliqué? L'article 63 de la Constitution dit que la République démocratique du Congo doit utiliser tout le moyen possible pour se défendre, comme en Ukraine. Ça va, on félicite déjà les Wazalendu, on félicite l'armée. Pour ceux qui ne comprennent pas, il faut féliciter les FARDC qui se battent parfois dans des conditions atroces, mais ils se battent. sérieusement. Il y a la guerre, c'est pas du tout un jeu. Mais vous avez compris que une des grandes armes de la République démocratique du Congo n'est pas utilisée. C'est la mobilisation générale. La mobilisation générale n'est pas utilisée.
Cette mobilisation générale passerait par quoi?
Par l'article 63, effectivement, de la Constitution.
Concrètement,
ça signifie, nous arrêtons un peu des blablabla, on cherche des positions et des postes à devenir ministre, gouverneur, etc. Non. Lubumbashi, exemple, vous mobilisez 400 jeunes. Kinshasa, vous mobilisez 10 000, disons 100 000, même 1 million des jeunes. Là, je ne parle pas de l'armée. Non, il ne faut pas confondre l'article 63. Il y a une mobilisation générale pour qu'on puisse prendre conscience. Je vous parle de Kanyabayonga, parce que c'est de ça qu'il s'agit pour l'instant, pour l'émission. Kanyabayonga a plus de 200 000 personnes. Okay? Là, 80 000 personnes viennent de fuir. Si les gens comprenaient ce que nous proposons depuis très longtemps, Kanyabayonga serait organisé avec plus ou moins 90 000 personnes avec l'article 63, qui soutiennent effectivement le FARDC. Donc, on ne parlerait même pas d'un village
à qui on donnerait des armes, c'est ça?
Écoutez, l'article 63 est clair. Des gens qui doivent être capables de se défendre avec tous les moyens. Pourquoi? Parce que nous avons effectivement plus de 10 millions de Congolais qui sont décédés, qui ont été tués parce qu'ils ont été incapables de se défendre. Ils n'ont pas été préparés pour défendre leur contrée. Donc moi, en tant que panafricaniste, c'est une aberration. Donc vous êtes nous sommes incapables de protéger nos villages. Non, c'est le leadership qui ne permet pas, on implore au président de la République. Ce sont des stratégies simples qui se font partout au monde. Je parle de l'Ukraine, je parle de tout le pays. Quand la situation devient grave, l'armée est là, mais l'article 63 ne concerne pas 100% l'armée. Concerne totalement toute personne qui doit défendre, qui est en capacité de défendre la République démocratique du Congo. Et une préparation...
Même l'Ukraine, où la population semble, n'est-ce pas, impliquée dans cette situation de guerre, et on sent le gouvernement avoir des difficultés, n'est-ce pas, pour mobiliser la population.
Ben oui, ce n'est pas facile. Mais vous comprenez effectivement que si l'Ukraine n'avait pas résisté de la sorte, eh ben l'Ukraine serait déjà prise depuis très longtemps. L'Ukraine résiste à cause de ça. Parce que la force de la Russie, pour ceux qui ne comprennent pas, elle est au moins 50 fois plus grande que la force de l'Ukraine. Mais il résiste effectivement à cause de ça.
Voilà, on va écouter pour vous, professeur Dadi Salé, l'auditeur qui a été nous appeler depuis la ville de Bounia, en Ituri.
Amos Bédi, depuis la ville de Bounia, en Ituri. Nous saluons vivement la reprise des contrôles partiels des cités de Kanyabayonga par l'opération Springbok menée par les casques bleus de la MONUSCO conjointement avec nos FARDC. Cependant, demandons au gouvernement d'intensifier ce genre d'opération militaire d'envergure dans toutes les localités sous contrôle des mouvements terroristes 1v3 par AC. En outre, que le gouvernement tant provincial que national vienne rapidement à la rescousse à ces personnes déplacées dues à cette guerre nous imposée par le régime de Kigali.
L'autre dimension de la guerre, c'est ces millions de déplacés dont on ne parle pas assez. Professeur Dadi Salé.
Tout à fait. Et là, je reviens sur un point, parce que c'est battre les déplacés, il y a la question des droits de l'homme. Il y a la question de la justice. Sans la justice, on ne peut pas non plus gagner la guerre. Ça, je peux vous l'assurer. Parce qu'effectivement, si chacun peut tuer, peut faire déplacer les gens, bombarder des camps de réfugiés et que la justice ne fait pas grand-chose. Bon, là, nous félicitons quand même le nouveau ministre de la Justice. Nous espérons qu'il va faire ce qu'il a toujours dit. Ce qu'il a dit pendant sa campagne. Ce n'est pas un jeu. Les gens doivent être condamnés. Les magistrats doivent faire leur travail. Donc, l'histoire humanitaire, ça va. C'est une histoire atroce. Mais qui sont condamnés dans tous ces déplacements? Dites-moi, qui a été condamné? Donc, la question aussi de la justice, et on espère que le nouveau ministre va amener cette touche. Hein. C'est vraiment sérieux. On a plus de 7 millions de déplacés, ça va? Aux alentours de l'Est. Et effectivement, on a des déplacés vers Goma qui viennent de faire déjà 2 ans. 3 ans en tant que déplacés. Et ça commence à être un peu une situation un peu normale. Et que nous avons des déplacés à Beni, ça va? Qui sont maintenant dans des familles. Parce que vers Beni territoire, Ituri, les déplacements, il y en a matin, midi, soir. Ok, si nous avons 10 millions de personnes, donc vous avez compris avec la théorie que je viens de donner, que c'est au moins 5 millions de personnes, si le gouvernement appliquait l'article 63 de la Constitution, ces 5 millions de personnes seraient capables de se défendre. Ces 5 millions de personnes ont été égorgées. Au fond, ce sont des principes simples. Je demande au chef de l'État de nous écouter. 5 millions de personnes qui viennent de mourir parce que ces personnes-là ont été incapables de se défendre. Aha. Est-ce que se défendre, il s'agit de péché? Non, c'est la raison pour laquelle on a prévu l'article 63. Mais je ne comprends pas pour quelle raison le chef de l'État, on ne le conseille pas assez pour l'application intelligente, je précise, intelligente de l'article 63. Jusqu'à preuve du contraire. Sans la mobilisation, l'arme la plus crainte, ça va, de la communauté internationale et des ennemis, c'est la mobilisation du Congolais. Alors là, je suis pas d'accord avec des gens qui confondent la mobilisation du peuple congolais et les discours de haine. Faites attention. La mobilisation du peuple congolais ne signifie pas des discours de haine. Je suis un sportif. Un sportif, quand il va en guerre, quand par exemple quelqu'un fait la boxe, parfois on injurie un peu l'adversaire. On les taquine un peu. Ça ne veut pas dire qu'il s'agit de discours de haine. On doit dire « Tokobuma, Tokobuma Kagame, Toko ». Est-ce que ça c'est un discours de haine? Absolument pas. Donc je pense que s'il vous plaît, ne confondons pas les discours d'encouragement, des rages, pour que nous puissions nous battre avec les discours de haine.
Merci. Henri Pacifique Mayala, on constate que cette fois-ci, le FRDC oppose une résistance et même repousse l'ennemi, parvient, n'est-ce pas, à récupérer quelques collines plutôt aux rebelles. Et ceci ne confirmerait-il pas les informations selon lesquelles les FRDC sont en train de monter en puissance?
Je crois qu'il faut distinguer, il faut faire la part des choses. Et c'est une erreur que de vouloir tout politiser, y compris les questions sécuritaires, même dans les grandes démocraties. On a vu cela arriver où les Kissinger ont envoyé 30 000 Américains mourir pour que 30 000 Américains autres ne soient pas, n'aient pas perdu la vie pour rien. On est passé par là. Certes, je voudrais bien que l'on adopte cette mobilisation intelligente, mais cette manie que notre classe dirigeante a à vouloir tout politiser n'est pas vraiment en train d'aider la situation. La reconfiguration sur Kanyabayonga aujourd'hui, avec principalement le commandant Chico et le général Kabundi, qui est un général ancien CNDP et RCD, AFDL, avec tout ce qui va avec, s'ils peuvent être mis sur la table et que les hommes de troupes peuvent observer déjà que au niveau du commandement, il n'y a pas cette politique de qui est Tutsi, qui est infiltré, qui est... Ils se battent tous sous le drapeau. Voilà le premier facteur, la première force de mobilisation sur laquelle il faut fonctionner, il faut avancer. Quant à ce qui concerne la montée en puissance, là aussi il y a encore un autre problème sur la façon que nous fixons nos priorités. Il suffit d'envoyer des hommes sur le terrain, qu'ils sachent que leur famille derrière eux pourront avoir à manger, être soignés s'ils tombent malades, ils vont se battre. Les FRDC, ce n'est pas une armée faible, c'est une armée démotivée. Quand vous prenez ou que vous priorisez à chercher la solution autour des soi-disant entreprises militaires qui sont payées, en tout cas gracieusement, logées dans les plus beaux hôtels de Goba, et que nos soldats, leurs familles, sont en train de quémander sur la route, je trouve que quelque part c'est vouloir quelque chose et son contraire. Et je ne vois pas comment est-ce qu'avec ces approches-là, nous pourrions envisager la soi-disant mobilisation intelligente. Parce qu'au final, on aura comme l'impression de faire du surplace. Ici, il faut faire cette mobilisation, oui, imprimer des t-shirts, avoir la première dame qui se présente à côté des FRDC ou des veuves. Je suis d'accord avec cela. Mais il faudrait que ces soldats-là sachent qu'au moins, à la limite, leurs familles ont eu de quoi manger. Et je ne suis pas trop sûr que la réflexion avance dans ce sens-là. Mobiliser les gens, ce n'est pas là le problème. On l'a fait à la politicienne ici avec l'ancien ministre de l'ESU qui est aussi issu du Grand Nord. On a mobilisé des jeunes qui sont allés dans différents camps pour 6 mois, revenus. On a frôlé une mutilation à Mubambiro. Et tout cela, c'est parce que on veut du populisme, on veut quelque chose du sensationnel. Au même moment, c'est des vies humaines que nous sommes en train de
sauver. Henri Pacifique Mayala.
C'est que nous avons, c'est que nous à faire jusqu'à là. Avec cette soi-disant mobilisation peu réfléchie, ça a été que produire de la chair à canon. Et je ne crois pas que ça serait une idée à encourager. Repositionnons nos priorités, motivons les FRDC, prenons en compte, si pas en première priorité, leur social, et voyons si nous n'aurons pas des solutions ou des résultats sur le terrain.
Henri Pacifique Mayala, on va écouter pour vous cet auditeur qui est en train de nous appeler depuis la ville de Kinshasa.
C'est Japheth et on va depuis la ville de Kinshasa. Nous saluons les efforts fournis par notre armée sur toutes les lignes de front. Le gouvernement congolais doit encore activer la diplomatie, renforcer l'armée congolaise par des moyens matériels et financiers pour vaincre cette guerre. À mon avis, les M23 sont aujourd'hui une coquille vide ou un épouvantail qui ne durera pas. Nous demandons au gouvernement congolais de continuer à faire des pressions au niveau international afin de trouver une solution définitive, car la victoire est certaine.
Oui, Henri Pacifique Mayala, vous allez réagir, n'est-ce pas, à la réaction de cet auditeur? Mais parce que nous sommes à la fin de l'émission, vous allez aussi, n'est-ce pas, essayer de faire des propositions pour savoir comment on peut faire pour le moment, dans les contextes du moment, et qu'est-ce faut-il faire pour solutionner de façon durable cette situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans les Nord Kivu. Qu'est-ce faut-il faire pour non seulement repousser la rébellion du M23 qui menace Kanyabayonga, mais aussi sécuriser toutes les autres villes ou les autres localités qui sont déjà, n'est-ce pas, en train d'être menacées par cette rébellion du M23. Ça sera votre conclusion.
Oui, Gumate, comme le dit notre compatriote de Kinshasa, je reste un pro diplomatique, les approches diplomatiques dans le cadre de la résolution des conflits. Mais cependant, il n'y a pas de bonne diplomatie sans possibilité de pouvoir recourir à la force. Et c'est une certitude établie, c'est une expérience par laquelle nous sommes passés. Et il y a aussi cet aspect où nous ne savons pas apprendre de nos propres expériences passées, de notre propre histoire. Cette situation, on l'a vécue en 2012, on a eu une solution. Comment est-ce que nous en sommes revenus encore à avoir M23 comme une question d'actualité? On va s'en épargner pour l'instant, mais on doit garder à l'esprit que pour qu'elle soit vraiment agissante, notre démocratie doit, je veux dire notre diplomatie, elle doit nécessairement passer par la réforme des FRDC. Et c'est pas sorcier. Je me souviens que on en a discuté encore sur cette même émission. Il y a eu des propositions qui ont été faites. Il y a des plans sur la réforme des FRDC qui sont là. Pourquoi est-ce que nous n'y tirons pas? Pourquoi est-ce que nous ne priorisons pas cela? C'est pas vraiment sorcier, en fait. Priorisons le social des FRDC. Ces gars-là, ils vont se battre. Aujourd'hui, parmi les troupes qui sont en train de tenir tête à Kanyabayonga, il y a des gars qui sont sur ces fronts-là depuis novembre 2021, quand Tchanzu était en train de tomber. Ils n'ont jamais été remplacés. Quelle motivation ils ont? Et quelle serait la situation si c'était l'inverse? C'est tout ça, au fait. Pour moi, je pense que oui, on devrait passer par la diplomatie, mais pour avoir une bonne discussion, de bonnes négociations, il faudrait que nous nous retrouvions en position de force. Comment pourrions-nous nous retrouver en position de force? C'est à travers les réformes des FRDC. Et oui, les réformes vont prendre des années, ça ne sera pas du jour au lendemain, mais il y a des solutions, il y a eu des réflexions, c'est juste des questions de pouvoir les mettre en pratique. Et donc, pour moi, je pense que nous avons un nouveau gouvernement qui a été mis en place. J'ai été très content de voir les nouvelles têtes, Madame Thérèse, elle a mis en fait, elle a travaillé à Goma, elle connaît les acteurs, elle a de bonnes entrées à l'international. Oui, elle peut utiliser ces atouts-là, mais si, sur le terrain, après que les troupes aient été nues pendant une semaine, ils vont encore battre en retraite parce que leur salaire n'a pas été, maigre salaire, n'a pas été donné à temps, ou que les troupes ne sont pas motivées parce que les politiciens sont rentrés dans les têtes du commandement. C'est tout cela qui continuerait à nous desservir.
Merci.
Mais par contre, si nous pouvons prioriser la réforme des FRDC, en passant premièrement par le social du soldat, qui est aussi une politique en place, bien réfléchie, on devrait nécessairement continuer à avoir des résultats.
Merci, merci professeur Dali Salé. Prioriser la réforme des FRDC nous aiderait, n'est-ce pas, à solutionner de manière durable cette question de l'Est du pays. Mais pour le moment, dans l'immédiat, que faut-il faire? Qu'est-ce que vous proposerez pour, n'est-ce pas, que Kanyabayonga ne puisse pas tomber, parce que la menace, elle est toujours là, pour que Kanyabayonga ne puisse pas tomber? Mais aussi, est-ce qu'il est, il est impossible de récupérer toutes les localités qui sont aujourd'hui contrôlées par les M23? Est-ce qu'il est impossible aujourd'hui de mettre en place des mécanismes pour protéger ces populations vulnérables, ces femmes et ces enfants qui sont en train de errer dans la nature, cherchant où s'abriter? Ça sera votre conclusion.
Oui, je pense que la première chose, c'est qu'on ne doit pas tribaliser ces conflits. C'est ça l'erreur. Toute personne qui tribalise ces conflits, qui pense que c'est une histoire des Rwandais ou bien de plutôt des Tutsis ou bien des Chi ou bien des Nandais, non. Il joue le rôle, les jeux, effectivement, des Kagame, et on est dans le faux. Non, on doit nationaliser plutôt la question. C'est-à-dire, il n'y a pas des tribus pour gagner cette guerre. On ne se bat pas contre des tribus. C'est pas une question des Tutsis. Les Tutsis ne sont pas minoritaires en République démocratique du Congo. On a plus de 400 tribus ethniques.
Il faut protéger Kanyabayonga aujourd'hui.
Oui, exactement.
La commune ne tombe pas.
La question n'est pas de protéger Kanyabayonga. La question, c'est de protéger toute la République démocratique du Congo. C'est la raison pour laquelle je veux pas dénationaliser la question.
Par quel mécanisme?
Par le mécanisme où, avec notre philosophie Kouchitegemea, le peuple doit être capable de se protéger. Les réformes, c'est tout à fait normal. Je l'ai dit. Il faut pas confondre le problème interne de la famille, ça va, et les étrangers qui viennent effectivement prendre la maison. Non. Nous avons nos propres problèmes comme Congolais, mais il faut pas que le Rwanda vienne prendre le Congo.
On peut encore espérer récupérer les localités sous contrôle du M23.
Nous allons récupérer, et que je précise à certaines personnes, surtout à mon co-débatteur, que les Ouazalendo ne sont pas payés. Et nous nous battons. Je suis Ouazalendo. Nous nous battons. Ça n'a rien à voir. C'est qu'il dit réforme donnée. Oui, c'est vrai. Ça, c'est l'interne. Les Vietnamiens n'étaient pas payés. Absolument pas. Ça, c'est confondre et distraire un peu la population. Non, nous devons nous battre avec des pierres, avec tout ce que nous aurons. Les Ouazalendo ne sont pas payés. Ils n'ont pas à manger comme les gens pensent, et pourtant ils se battent.
Donc
il faut pas décourager le FARDC. Je vous ai dit, les FARDC sont des vaillants. Ils se battent comme pas possible. Mais l'armée avait été infiltrée, ça va, depuis 1997, et il faut, comme Che Guevara l'a dit, enlever tous ces infiltrés. Il faut pas blaguer avec ces infiltrés. C'est ça la question. Donc il faut une mobilisation générale. S'il n'y avait pas un complot international, n'est-ce pas? Et un complot régional. Alors nous prendrons cette histoire de réforme. Quelles que soient les réformes, nous nous battons. Les M23 n'existent pas. On se bat contre le Rwanda, l'Ouganda et des forces qui amènent des missiles au Rwanda, à Patriote, etc. Donc, il ne s'agit pas d'une petite blague des réformes.
Professeur Dali Salé, il est impérieux aujourd'hui de protéger ces femmes et ces enfants, ces personnes vulnérables, ces déplacés des guerres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça sera votre mandat.
Il faut qu'ils puissent se protéger. C'est ça l'article 63. Mon Dieu. Pourquoi l'article 63 existe dans la Constitution?
Les vulnérables, c'est protéger.
Mais ils sont vulnérables par rapport à quoi? Ils sont vulnérables parce que vous voulez qu'ils soient vulnérables. Parce que vous ne voulez pas qu'ils puissent se protéger. Je vous ai dit, je suis un panafricaniste. Vous pensez que quand on s'est protégé dans nos villages, c'était les Nations Unies? C'était des étrangers qui venaient nous protéger? Non. C'était des vaillants du village, les enfants, le maman, toutes les personnes se protégeaient. C'est ça être panafricaniste. Vous ne pouvez pas penser qu'il y aura quelqu'un qui va venir protéger Kanyabayonga plus que les enfants de Kanyabayonga. Mais malheureusement, je vous ai dit, ce n'est pas Dali Salé qui a mis l'article 63 dans la Constitution. Appliquons, Excellence, Monsieur le Président, l'article 63 intelligemment. Mobilisation générale. L'ennemi va fuir de lui-même. Quand l'ennemi va voir qu'il y a 5 millions de Congolais prêts à se battre, on ne va même plus se battre. Ces gens-là qu'on appelle RDF, des Rwandais qui viennent des Ougandais, vont fuir d'eux-mêmes. parce qu'ils vont voir effectivement que ce n'est pas un jeu. Jusque-là, ben, on fait comme si à Kinshasa, tout le monde est en train de dormir à Lubumbashi. Mobilisation générale, on n'aura même plus à se battre.
Merci, merci, c'est la fin de l'émission. Merci à vous tous d'avoir accepté de participer à cette émission. Professeur Dadi Salé, M. Henri Pacifique Mayala. Malheureusement, on n'a pas eu Placide Ndilamba à cause des problèmes sur la ligne téléphonique. Merci également à Dona Madimba qui a réalisé cette émission et à Alain Ngoy qui était à la technique avec la participation de Jonathan Fonani et d'Hervé Voka sous la supervision de Martin Sebujangwe. À la présentation Guy Mathieu. Merci une fois de plus et bonne suite du programme sur Radio Capi.